Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question de plusieurs sujets. De Véronique Yvon qui se lance dans la course à la chefferie du PQ, de la langue française qui perd des plumes, de Jean Chrétien et le cannabis, de C14 qui se fait écorcher au passage, d'une cause trans en Caroline du Nord, du lobby gay en Alabama, de la violence sexuelle à l'université et des bonnes nouvelles du jour. Débutons par ce premier article qui s'intitule « Course au PQ, Véronique Yvon est la première à se lancer ». Cet article a été publié sur la plateforme de Radio-Canada et elle nous fait part des quatre grands axes de sa plateforme. Les voici. Faire de la souveraineté un projet collé à la réalité des gens, rétablir le lien de confiance entre la population et la classe politique, poursuivre la convergence souverainiste et œuvrer pour la conciliation famille-politique. Évidemment, Mme Yvon ne sera pas la seule candidate à se présenter à la succession de Pierre-Carl Péladeau. Cette semaine et dans les prochaines semaines, nous allons entendre d'autres noms se joindre à la liste de candidats. Ces candidats-là ont tous quelque chose en commun, malgré leurs divergences. Ils veulent faire du Québec un pays francophone. Mais ce qui arrive, mesdames et messieurs, c'est que ce futur pays francophone ou cette nation francophone n'est pas en mesure de préserver le français. Et oui, c'est ce que dénonce Mathieu Bock-Côté dans un article intitulé « Le triomphe d'Elvis Gratton ». Cet article a été publié sur la plateforme du Journal de Montréal. Il dénonce, dans ce papier, que le bilinguisme est en train de prendre le dessus sur l'expression française. Et moi, j'ai commenté cet article-là, mesdames et messieurs. Un article qui vaut la peine d'être lu. Parce que, comme vous le savez, le fait français au Québec représente une goutte d'eau au sein des Amériques. Évidemment, on entend parler français à certains endroits dans le reste du Canada, en Louisiane aux États-Unis, on le voit dans les Antilles, en Martinique, au Guadeloupe, en Haïti. Mais il reste que néanmoins, ici, nous, en Amérique du Nord, on est entouré d'une mer d'anglophones. Est-ce que c'est mal? Non, moi je crois que tous les Québécois doivent apprendre l'anglais. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas être fier du français et d'assumer que nous sommes une nation francophone. Et qu'est-ce qui fait que le bilinguisme est en train de prendre le dessus tranquillement? Bien, quand je dis tranquillement, est en train de prendre le dessus, eh bien, c'est parce qu'on ne valorise pas suffisamment notre langue. Et pourquoi? Parce que c'est le résultat d'avoir largué notre patrimoine. On ne valorise plus notre histoire, nos repères historiques, nos origines, notre folklore. On se pose encore la question, est-ce qu'on doit souhaiter joyeux Noël? Est-ce que les commerçants sont en droit de dire à leurs clients ou de mentionner à leurs employés de dire à leurs clients joyeux Noël? On affiche et on dit de plus en plus joyeuse fête. Ça ne se dit presque plus dans les magasins joyeux Noël, à un point tel, lorsque quelqu'un me dit joyeux Noël, je lui dis « Ah, merci beaucoup, ça fait longtemps que je n'ai pas entendu ça. » Une autre preuve, l'émission La Voix, j'ai écouté La Voix, moi, sur les ondes de TVA. Et j'étais estomaqué de ce qu'on acceptait des unilingues anglais et les coachs, pour utiliser une expression anglophone, une expression qui est utilisée par l'animateur de cette émission-là, eh bien, parlait, par exemple, j'ai une fille en tête, lui parlait en français, puis elle ne comprenait rien de ce qu'il disait. Il y avait des concurrents qui étaient anglophones, d'origine anglophone, mais qui se débrouillaient fort bien en français, qui faisaient des efforts. Mais je ne comprends pas qu'une émission francophone, dirigée à l'époque, dirigée par Pierre-Carl Péladeau, évidemment, il y a toute l'histoire du droit de regard, etc., mais néanmoins, c'est l'héritage de Pierre-Carl Péladeau, qui est un souverainiste avoué, et on laisse monter sur la scène une personne qui ne comprend même pas le français. Ou à peine. Et ça, je trouve ça inacceptable. Si la personne ne sait pas parler français, qu'elle se présente aux États-Unis ou dans un autre pays, où est-ce que l'émission La Voix est diffusée en anglais? Ces artistes-là s'adressaient à un auditoire francophone. Mais j'ai entendu et vu très peu de gens dénoncer ce fait-là. Pourquoi? Parce que notre langue, elle est dénigrée. Et pourquoi elle est dénigrée? Parce que justement, on est en train de dénigrer notre patrimoine. On est en train de dire, bof, Noël, Pâques, l'Action de grâce, c'est juste un congé, ça n'a pas de valeur. Le crucifix à l'Assemblée nationale, ça n'a pas de valeur. La croix sur le Mont-Royal, ça n'a pas de valeur. Mais savez-vous quoi? Ça fait partie de notre patrimoine. Et si on laisse de côté notre patrimoine, si on laisse de côté nos repères dans l'histoire de notre nation, eh bien, c'est certain que tout le reste va venir avec. Mais en ce qui concerne l'identité francophone du Québec, on a eu un premier ministre au Canada qui s'en souciait très peu. Eh bien, aujourd'hui, Jean Chrétien ne se prononce pas sur le fait français au Québec, sur l'identité francophone du Québec. Il se prononce en faveur de la décriminalisation de la marijuana. Et oui, c'est ce que nous apprenait la presse, mesdames et messieurs. En collaboration avec la presse canadienne, voici ce que nous rapporte cette plateforme. L'ancien premier ministre, Jean Chrétien, estime que les politiciens doivent s'adapter au changement d'époque, comme lui-même l'a fait sur le cannabis, la peine de mort et d'autres enjeux controversés qui ont évolué depuis le début de son implication dans la vie politique au début des années 60. Que ce soit sur la consommation de la marijuana, l'avortement, le mariage gay ou la peine de mort, M. Chrétien dit avoir essayé de s'imprégner de l'esprit de l'époque, même si cela entrait en contradiction avec ses origines conservatrices et catholiques héritées de son Québec rural à Shawinigan. Donc, ce que M. Chrétien est en train de nous dire, ce qui est important, c'est d'être branché sur notre époque. Ce qui est important, c'est de se conformer au siècle présent. Ce qui est important, c'est de suivre le vent du courant. Ce qui est important, ce n'est pas d'avoir des convictions, ce n'est pas d'exiger le meilleur pour notre nation, c'est d'être à la page. Ce que je trouve déplorable avec tout ça, c'est que M. Chrétien n'est pas conscient du tort que ça va engendrer, que ça va occasionner chez nos jeunes de décriminaliser et d'éventuellement légaliser la marijuana. Il n'y a pas seulement la décriminalisation et la légalisation de la marijuana qui fait parler les gens. Il y a aussi l'aide médicale à mourir. C'est un sujet controversé et c'est un autre sujet que les libéraux fédéraux ont décidé de s'attaquer. Vous allez me dire oui parce que la Cour suprême l'a exigé, effectivement. Mais les libéraux pourraient utiliser la clause dérogatoire et clore ce débat. Ça veut dire que cette clause, pour 4 ou 5 ans, pour être ouverte, pour être adoptée en disant « pour les 4 ou 5 prochaines années, on va changer les lois, on va, à la limite, s'il le faut, changer la Constitution pour s'assurer qu'on ne donne pas l'aide médicale à mourir, qu'on ne tue pas des gens vulnérables. » Non, M. Trudeau, lui, préfère aller de l'avant et légaliser l'euthanasie. Voici ce que nous révèle la presse à cet effet. Le premier ministre Justin Trudeau a assuré lundi après-midi que les libéraux étaient ouverts aux amendements pour son projet de loi sur l'aide médicale à mourir. Mais cette ouverture ne s'est pas manifestée en soirée à la réunion du comité qui a amorcé l'étude article par article de C-14. Les libéraux majoritaires autour de la table du comité de la justice et des droits de la personne ont bloqué une série de propositions d'amendements qui auraient mené à un élargissement de l'accès à ces soins. Les suggestions conservatrices prônant un accès plus restreint ont subi le même traitement. Le rapport du comité ne recommandera donc pas de redéfinir ou de retirer le critère de mort naturelle raisonnable prévisible, une notion critiquée par de nombreux experts ou de retirer le terme incurable de la liste des critères, et ce, malgré les supplications des élus des trois formations. L'intransigeance des libéraux a profondément irrité les représentants de l'opposition. La majorité des propositions d'amendement émanent des députés conservateurs qui siègent au comité. Alors, l'intention du gouvernement, c'est de garder le cap sur cette loi. Ils sont prêts, selon l'article, à corriger des éléments du projet de loi qui sont manquants ou qui manquent de précision, mais ils ne veulent pas changer radicalement le projet de loi. Ils s'en vont dans cette direction-là. La direction qu'ils ont optée, c'est de s'assurer que l'aide médicale à mourir soit légale. Et aux États-Unis, ce n'est pas l'aide médicale à mourir qui fait la manchette aujourd'hui dans la presse, mais c'est l'affrontement judiciaire sur la loi anti-transgenre en Caroline du Nord. Et oui, ce qu'on nous dit, c'est que le gouvernement fédéral, via la ministre de la Justice, eh bien, conteste le fait que la Caroline du Nord voulait que les toilettes publiques soient disposées aux gens en fonction de leur sexe d'origine. Et ceux qui se considèrent d'un autre sexe veulent avoir accès aux toilettes de leur choix. Et donc, il y a tout un débat là-dessus. Mais savez-vous quoi? Puis je vous invite à lire cet article qui est intitulé, mesdames et messieurs, « Affrontement judiciaire sur la loi anti-transgenre en Caroline du Nord ». Et vous avez un article similaire qui parle du même sujet sur la plateforme du Devoir qui s'intitule « Loi anti-transgenre, la Caroline du Nord saisit la justice ». Moi, ce que je me dis à cet effet-là, là, qu'on ait changé de sexe ou non, rendu à ce point-ci, là, on ne peut plus s'en mêler. Mais on peut-tu établir que si tu portes les organes génitaux d'une femme, tu vas dans la toilette des femmes, puis si tu portes les organes génitaux d'un homme, tu vas dans la toilette des hommes? On peut-tu s'en tenir à ça? Mais ça a l'air que selon la ministre de la Justice des États-Unis, du gouvernement Obama, c'est pas comme ça que ça marche. Et c'est pas comme ça qu'ils veulent que ça marche. Alors, le fédéral est même prêt à couper des subventions à l'État de la Caroline du Nord, qui touche l'éducation et autres, s'il ne corrige pas cette loi. C'est incroyable, mesdames et messieurs. Mariage gay, suspension du président de la Cour suprême d'Alabama. Eh bien, je vous invite à lire cet article-là. Le président de la Cour suprême de l'Alabama a été suspendu vendredi après la plainte d'un organisme de supervision judiciaire concernant ses efforts pour empêcher les mariages entre personnes de même sexe dans cet État du Sud, ont rapporté des médias. Roy Moore, 69 ans, pourrait devoir comparaître lors d'une audience devant un panel constitué notamment de juges et d'avocats. Il risque la destitution. Et un dernier article, mesdames et messieurs, la violence sexuelle, un fléau à l'université. Une étude qui a été menée auprès de 6 universités, dont l'UQO, eh bien, nous dit qu'une personne sur 3 a été victime de violences sexuelles depuis son arrivée à l'université. Et ça, c'est incroyable, mesdames et messieurs. En plus, la coercition sexuelle représente 3% de la population étudiante dans ces milieux universitaires. La coercition sexuelle se définit par une sorte de chantage en retour de considérations futures liées à l'emploi ou en milieu scolaire. Et ça, c'est énorme, mesdames et messieurs. Donc, en rafale, puisque le temps court, eh bien, on va suivre ce vent rapide. Renaud Girard, l'Europe a bien des racines chrétiennes, point d'exclamation. Ça vaut la peine de lire ça. Et moi, je suis content à chaque fois qu'on parle de nos racines chrétiennes. Parce que ce sont des repères dans l'histoire, ce sont des repères sur lesquels on peut fixer nos regards, nos pensées et s'exprimer. Le plateau Mont-Royal sécurise toutes ses sorties de ruelles. Vous savez comment que c'est, si vous avez visité le plateau Mont-Royal, tout ce qui touche les rues là-bas, la direction des rues, les sorties de ruelles, c'est assez spécial. Et je suis content qu'on va faire des modifications à cet effet. Il faut se rendre dans ce coin-là pour comprendre ce qui se passe. C'est une bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Et cette dernière bonne nouvelle, le gouvernement du Canada fera une annonce concernant le lieu historique national au Canal Rideau. Et je peux vous dire que cette annonce a été faite. C'est fait, c'est annoncé. Il y aura des investissements dans les infrastructures du lieu historique national du Canal Rideau. et ses investissements totalisent 57,3 millions, mesdames et messieurs. Ça, c'est une bonne nouvelle. Sur ce, eh bien, puisque le temps court, le temps fuit, le temps nous échappe, eh bien, je vous dis, n'échappez pas à l'émission de demain, puisque c'est un rendez-vous pour notre prochain tour d'horizon.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le tour d'horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante: leblogueur@ericlantier.net. Le tour d'horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre tour d'horizon. Au revoir!